Bonjour, on termine la semaine avec Robert Laffont pour commenter l'actualité sans langue de bois, l'actualité économique, l'actualité politique. Robert Laffont qui est journaliste et qui dirige le groupe Entreprendre et la revue, le mensuel du même nom Entreprendre. Et avec Robert, et bien à chaque fois on est un peu plus entrepreneur friendly, hein, chef d'entreprise friendly. C'est le cas finalement du dernier numéro d'Entreprendre qui évoque les entrepreneurs, la présidentielle, avec des messages qui sont lancés par les chefs d'entreprise aux collectivités locales et à l'État. Achetez français, achetez local, restez dans la proximité. C'est un peu cela, Robert Laffont ?
Oui, parce qu'on dit, on dit aux consommateurs de n'acheter du Made in France, mais on oublie que le gros de les achats de l'équipement, c'est les collectivités, c'est les entreprises qui achètent entre elles. Donc, il y a un sentiment de solidarité qui doit jouer, notamment d'administration publique. Donc là, on a en une du magazine Entreprendre, on a le patron de Thomson, celui qui a relancé la marque Thomson et qui est aujourd'hui dernier fabricant français et européen de PC, hein, de petits ordinateurs. Devenu maintenant un produit essentiel, eh bien, il fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même une belle réussite, hein, Stéphane Français, président de Thomson, et il a quasiment aucun achat de, si vous voulez, des administrations, de l'éducation nationale. Il y a un peu le conseil d'Île-de-France, le conseil régional, qui un petit peu achète du Thomson. Donc, si vous voulez, on a quand même ces administrations doivent dans la compétition économique se mettre vraiment au service de leurs concitoyens et ne pas hésiter à accompagner le développement économique du pays. C'est d'intérêt vital et je ne comprends pas la frilosité. Alors je sais bien qu'elles sont astreintes à des règles de déontologie strictes, etc. Mais enfin bon, vous savez, en Allemagne, quand vous êtes recruté, j'avais un ami qui était recruté dans une entreprise allemande qui m'avait dit, j'arrive dans le bureau du président, je signe le contrat de travail et on me dit, pour votre voiture de fonction, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez Mercedes, BMW ou Audi? Peugeot? Ah non, monsieur, c'est pas prévu. Donc, il faut être malin, quoi. On est dans la compétition économique, il faut que les Français serrent les coudes. Alors, il s'agit pas de faire n'importe quoi, de sorte de...
Oui, mais vous doublez des policiers, ils sont en Ford. Il y a des patrouilles de la BAC, elles sont en Ford.
Oui, c'est pas normal, alors qu'on a deux constructeurs français ou européens qui sont Stellantis et Renault, qui sont très, très, très importants, qui ont fait de belles voitures, donc c'est pas normal, si vous voulez, c'est pas normal qu'on n'arrive pas à équiper nos services publics, nos collectivités en matériel français, donc c'est... Ça paraît quelque chose de, c'est du bon sens, mais vous savez, ça nous, à la sortie, ça nous coûte très cher. Ça coûte très cher en emploi. Moi, je dis souvent, vous savez qu'une voiture achetée, une Renault achetée, par exemple, ou une, si elle est construite en France, bien sûr, c'est un emploi sauvé. Vous achetez une Renault, vous sauvez un emploi.
Oui. Et sur une chaîne.
C'est un bon argument, ça.
Et sur une chaîne qui est insoupçonnée, parce qu'on pense forcément à celui qui va monter l'automobile, mais il y a aussi peut-être le marketing, la publicité, c'est plein de choses. C'est une véritable chaîne. Mais les collectivités locales, elles commencent pas mal à faire d'efforts, surtout sur l'alimentation, j'ai le sentiment.
Oui,
locavore.
Dans les cantines notamment. Oui, il y a une prise de conscience, puis les agriculteurs maintenant... ont compris que la chaîne de distribution était, j'entendais ce matin à la radio, qu'il y a des agriculteurs de plus en plus qui s'équipent de distributeurs automatiques pour vendre leurs produits. Et il y a un développement du chiffre d'affaires qui est important. On vend même des baguettes de pain à un distributeur, bon, des huîtres, etc. Donc les agriculteurs ont compris que la maîtrise de la distribution, c'est important. Et il est important que nos petits magasins dans les villages, dans les petites villes, que ce soit en Bretagne ou ailleurs, puissent effectivement faire un rayon produits locaux. C'est très intéressant, en étant livré directement par les agriculteurs du coin. Donc d'une part, ça permet de bien écouler la production locale, de favoriser leurs voisins qui sont agriculteurs. Et puis les clients sont demandeurs. Les clients maintenant sont très demandeurs de produits locaux quand ils vont dans une région. Ils sont contents d'avoir des pommes de terre locales, des tomates locales, des cerises locales. Enfin, Donc il y a une vraie demande, oui. Il faut, et ça tombe bien parce que ça permet de développer notre économie.
Est-ce que cette élection présidentielle, Robert Laffont, va être un peu plus entreprise friendly, entrepreneur friendly?
Je sais pas, Yannick Urien. Je pense que, vous savez, moi j'ai un petit peu critiqué par exemple Valérie Pécresse parce que on attendait beaucoup de son programme de redéploiement économique. Et finalement, la droite n'a pas fait sa mutation vers l'industrie, vers l'entrepreneuriat, parce que quand vous voyez qu'elle veut baisser les impôts de production, au départ c'était 3 milliards d'euros, et puis après elle est arrivée à 10 milliards, non, il faut les supprimer, ces impôts de production. Pourquoi ? Parce que on a 40 milliards d'écart avec l'Allemagne, on a un retard important dans notre tissu industriel, on a moins d'industrie en France qu'en Allemagne. Il faut revenir au niveau de l'Allemagne. Donc, il faut partir avec des armes qui soient égales. Donc, on a ce surcoût des impôts de production. C'est quelque chose qu'il faut supprimer tout de suite. Et il y a des rapports, j'en ai parlé dans un de mes papiers, des instituts très sérieux, comme l'Institut Molinari, qui démontrent que en baissant les impôts, en supprimant les impôts de production, donc c'est près de 40 milliards d'euros, eh bien, l'État français s'y retrouve quasiment au bout de 2 ans, parce que vous avez un surcroît d'investissement qui est immédiat, vous avez des usines qui s'installeraient en France qui ne feront pas à cause de ces impôts de production. Regardez l'usine Intel qui va s'installer à Berlin, ça n'est qu'un exemple, mais il y en a d'autres. Et d'autre part, les effets induits sur l'économie, que ce soit la TVA, que ce soit les sous-traitants, que ce soit les commerces autour de l'usine qui est créée, la France s'y retrouve tout de suite. Donc, si vous voulez, c'est typiquement le genre de mesures qu'il faut, que la droite doit prendre. Il faut un électrochoc pour lancer l'économie. Il faut pas des mesurettes. Et le programme des Républicains, de ce point de vue-là, il est trop timide. Il est trop techno, si vous voulez. Et on voit bien que Valérie Pécresse est une femme qui est extrêmement dynamique, qui est une femme qui fait beaucoup de choses, qui gère bien, mais si vous voulez, l'entourage, c'est toujours pareil, il n'y a pas assez d'industriels, il n'y a pas assez de commerçants, il n'y a pas assez d'artisans, il n'y a pas assez d'hommes de terrain, il y a trop de techno, il y a trop d'experts, donc on arrive à ce type de mesure. Alors après, on s'étonne qu'elle décolle pas dans les sondages. Éric Zemmour, lui, il a proposé 30 milliards de suppression des impôts de production. Et il est entouré, Zemmour, il est entouré d'entrepreneurs. Hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont avec lui. Alors Marine Le Pen, elle est également assez en pointe hein, sur ces sujets, même s'il y a des erreurs qui sont faites. Hein. Sur l'ISF, par exemple, Marine Le Pen fait une erreur de vouloir remettre l'ISF. C'est une erreur parce que, si vous voulez, pour faire court, on oublie une chose, c'est que la finance, il n'y a pas d'industrie sans finance. Donc la finance, c'est le carburant, c'est le carburant indispensable au développement industriel. Donc pour faire venir de la finance, eh bien il faut avoir un dispositif fiscal qui soit au moins équivalent à celui de nos voisins. Or on est le dernier pays à avoir aujourd'hui l'IFI. Donc rétablir l'ISF, c'est une plaisanterie. Ça fait fuir les capitaux, ça fait fuir les grands entrepreneurs. Et ça ne refait pas venir l'argent dont on a besoin pour investir dans l'industrie.
Dans votre tour d'horizon, vous n'avez pas cité Emmanuel Macron encore, Robert Laffont.
Non, là,
est-ce lui qui va...
Ouais. Alors, c'est le favori. Il a fait des bonnes choses sur les impôts, notamment sur la finance. Il a supprimé l'ISF, il a gardé cette IFI qui est une... probablement une aberration parce que vous savez le bâtiment, le logement, c'est une industrie qui fait 10% à peu près de nos emplois, donc ça incite quand même des investisseurs à se mettre en Suisse, à se mettre au Luxembourg, à se mettre en Belgique. Donc c'est, pour moi, c'est quelque chose qui rapporte assez peu, 2-3 milliards, et qui contribue pas à faire de la France un pays qui donne une image, si vous voulez, qui se réconcilie avec finalement une certaine forme de prospérité. Donc Emmanuel Macron, il donne un peu à tout le monde. Hein, Emmanuel Macron, je dirais, tout le monde a des raisons de voter pour lui, parce qu'il y a toujours une mesure qui va vous correspondre. Les chefs d'entreprise, il y a des mesures qui correspondent aux chefs d'entreprise. La fonction publique et les mesures correspondent. La PMA, ça va plaire au LGTB, enfin LGBT, pardon. L'immigration, alors l'immigration, il a rien fait. Ça, c'est vraiment pour moi, si vous voulez, Emmanuel Macron, pas mal. Encore que y a à dire sur sa manière de s'adresser aux Français, parce que les Français, il faut les réconcilier, il faut pas les diviser, les monter les uns contre les autres. Bon, ça, c'est un. Mais il était jeune, il a probablement appris. Donc, c'est vrai qu'il a, il a cette capacité à communiquer et il passe bien, si vous voulez. Il est intelligent. Mais sur les, il y a des sujets de préoccupation des Français que tout le monde connaît, que les sondages font apparaître. Je ne parle pas du pouvoir d'achat parce que ça, on peut y revenir, c'est un vrai sujet. Mais immigration, insécurité, il n'est pas suffisamment en pointe là-dessus. Il fait une grave erreur, à mon avis. Ça, c'est une erreur parce que ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter cher au point de vue électoral.
Alors, Robert Laffont, je voulais aussi évoquer avec vous la question russe et les entreprises françaises en Russie. On critique beaucoup des grands groupes comme Leroy Merlin, Auchan, Decathlon de ne pas vouloir quitter la Russie. C'est facile de s'exciter. Il faut savoir que ces groupes ont investi des milliards en Russie. S'ils quittent pour le gouvernement russe, ils abandonnent tout. Renault, là, ce sont des milliards qui sont perdus pour Renault, cette décision. Ça va être... Poutine va fourguer ça à un de ses copains oligarques russes qui va se retrouver avec un beau cadeau, hein, une usine clé en main.
Vous avez parfaitement raison. Renault, c'est près de 3 milliards d'euros. C'est la perte de Lada qui est quand même la filiale de Renault russe, le premier constructeur d'automobiles russe et français. C'est Renault, comme vous l'avez dit. Et c'est là où Renault fait le plus de marge. Bon, alors ça tombe pas bien. Alors, vous avez raison de rappeler que si les groupes français ou étrangers quittent la Russie, Poutine a dit qu'il les nationalise, les récupère.
Mais ça se comprend.
Donc ça veut dire que si vous quittez, si vous quittez la Russie, vous faites un cadeau à Poutine. Parce que,
quitter la Russie, c'est faire un cadeau à Poutine. Et je vois pas en quoi entretenir des milliers de fiches de paye de braves dames qui travaillent chez Leroy Merlin à Moscou, dans la banlieue ou dans le Grand Moscou, ça finance Poutine et la guerre. Ça finance des braves dames, c'est tout.
On fait de l'émotionnel sur ce dossier, sur cette affaire. Au lieu d'essayer de regarder l'avenir avec, je dirais, un certain réalisme, la Russie, il y aura une Russie après Poutine, donc il faut essayer de réfléchir aussi à cela. Poutine n'est pas éternel. Poutine aujourd'hui a fait une grave erreur et a commis, certains diraient, un crime contre l'humanité. Bon, en tout cas, c'est une agression caractérisée avec des morts à la clé.
Ça s'appelle une guerre. Voilà, pour l'instant,
ça s'appelle une guerre.
Et vous savez, pour qualifier le crime contre l'humanité, il y a les deux camps qui viennent voir le procureur en disant, sur le Donbass, ils n'ont pas fait mieux. Chacun va étaler. Donc, en règle générale, ce genre de dossier, ça se finit par un match nul.
Oui, en plus,
seule erreur, c'est d'avoir été l'agresseur. Mais bon, eux aussi disent qu'ils ont été les agressés. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que...
Non, mais ce qui me gêne, moi, si vous voulez, dans le débat français, je sais pas si
c'est l'émotion.
C'est l'émotionnel qui est mis en avant. Donc, je suis toujours un peu gêné quand on veut faire pleurer Margot pour prendre des décisions politiques. Et deuxième chose, c'est pas aussi clair que ça. C'est-à-dire que comme l'a dit très bien, c'est Hubert Védrine. Quand lui a posé la question, il a dit, vous savez, avec Poutine, au départ, il était prêt même à rentrer dans l'OTAN. Il était prêt à s'allier avec l'Europe. Et il pose la question, est-ce qu'on n'a pas créé un monstre? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'a pas alimenté une paranoïa qui est évidente, à travers des provocations multiformes, alors ça ne justifie en rien son agression contre l'Ukraine, mais c'est quand même une réflexion qu'il faut avoir. Alors, bon, vous allez me dire, maintenant les choses sont entamées, on n'en est plus là. Donc, mais moi, ce qui me sidère, c'est tous ces va-t-en-guerre qu'on entend toute la journée dans les radios et les télés, qui sont prêts qui veulent armer absolument les Ukrainiens. Je rappelle quand même qu'en armant les Ukrainiens, on va alimenter un conflit et que on sait bien que la Russie est beaucoup plus puissante en termes d'arsenal militaire et que en armant les Ukrainiens, on est sûr que les Ukrainiens vont perdre. Enfin, je vois pas comment militairement. Ou alors, il faudrait vraiment que ça soit. C'est pas une petite dose d'armement. Mais a priori, c'est quand même l'armée russe qui est plus forte. Ou alors, il faudrait un écroulement généralisé de cette armée. Donc, c'est pas la bonne solution. Sarkozy l'a dit. Il a tout de suite dit, c'est négociation ou massacre. Bon, c'est pas le terme qu'il employait, mais enfin, ça revenait à cela. Donc, la négociation, c'est vraiment le fil d'Ariane qu'il faut avoir. Alors, Emmanuel Macron fait preuve d'énormément de patience et de bonne volonté. Le problème que nous avons avec notre président de la République, qui est plein d'allant, si vous voulez. Bon, déjà, il est empêtré dans une campagne aussi présidentielle, c'est pas évident. Enfin, c'est lui qui savait très bien, en acceptant la présidence de l'Union européenne, ça coïncidait avec les élections présidentielles françaises. Il pensait en bénéficier. D'ailleurs, il en bénéficie parce que les Français sont, je dirais, assez fiers de voir leur président avoir des discussions hebdomadaires ou tous les 3 jours avec le président russe. Bon, pour l'instant, je dois dire qu'il en sort pas énormément de choses. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas ce qui se dit. C'est par définition le rôle de la diplomatie. Mais si vous voulez, y a quelqu'un qui a dit une chose très vraie, c'est-à-dire que le en même temps en diplomatie, ça ne marche pas. Parce que vous pouvez pas dire le lundi, Vladimir, je t'en prie, les droits de l'homme et faisons le cessez-le-feu. Tu vas t'enliser, etc. Et le mercredi à Versailles, avec les chefs d'État de l'Union européenne, je suis le chef de guerre, on fait la guerre économique, etc. Et c'est compliqué. Le en même temps, en diplomatie, ça ne marche pas. Poutine, il faut avoir un. Le discours du président est un peu ambigu quand même sur Poutine. On ne sait pas quelle est la position et on ne sait pas quelle est la position de la France
D'ailleurs, la position de la France, c'est de dire sur les plateaux de 20h, c'est pas bien, on va déstabiliser Poutine, on lui fait la guerre économique. À 20h30, on a quitté le plateau de télévision, on va dîner avec le PDG d'Auchan. Et de Leroy Merlin, il dit « qu'est-ce que je fais là? Je dois me retirer? Je dois tout perdre ?» Non, non, restez-y. C'est ça. Non, oui. Mais voilà ce que font les ministres. J'en ai eu la confirmation. Ministres qui disent sur les plateaux de télé « on va faire la guerre économique à Vladimir Poutine, on ne peut... Voilà, on laissera rien passer, on va être ferme, ferme, ferme. » Et quand ils se retrouvent le soir au restaurant avec le rond de serviette, à déjeuner ou à dîner avec une bonne bouteille, face à un grand PDG, restez-y, il y a des positions à prendre. Parce qu'après, bien sûr, le PDG dit, vous voulez que l'on parte. Qu'est-ce que vous nous donnez, nous, en contrepartie, pour avoir pris cette décision? Il y a aussi ça. Non, non, on ne vous demande pas de partir.
Mais Yannick Hurien...
Vous avez compris quel est ce triple jeu, ce double jeu?
Oui, on sait bien, les politiques sont habitués à ce tango argentin. Mais si vous voulez... C'est vrai sur ce sujet de la Russie, mais c'est vrai sur d'autres sujets. Mais si vous voulez, il y a quand même une chose que les Français doivent avoir à l'esprit, c'est que quel est le pays qui, je suis pas parano, mais quand je dis ça, mais quel est le pays qui va payer le plus durement cette guerre économique en dehors de l'Ukraine? Je pense que la France, qui est le premier employeur privé étranger en Russie, alors c'est pas de chance, hein, pour une fois que la France est en très bonne position dans un pays, c'est ce pays qu'on sanctionne. Alors vous allez me dire, si vous avez un peu de mémoire, et je sais que vous en avez, l'Iran, on a sanctionné, on était pas mal en Iran, vous vous souvenez, toutes les boîtes françaises qui étaient installées en Iran. Si vous vous souvenez également, l'Irak, on était pas mal en Irak. Alors, je suis pas en train de dire qu'à chaque fois.
Bref, faut voir la carte du monde des pays où les entreprises françaises sont les plus implantées. C'est là où
je vois
une guerre dans les 20 ans.
À part l'Afghanistan où là on n'était pas du tout présent, mais si vous voulez, je constate quand même. Alors, Et je constate aussi, je peux pas m'empêcher de constater que Biden, qui est le grand Manitou, qui décide pour nous finalement, et ça me gêne un peu d'ailleurs. Je pense que le fait que l'OTAN devienne maintenant l'interlocuteur privilégié est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs Macron a du mal à négocier avec Poutine. Hein. S'il était bon, mais ça c'est un autre débat. On va pas sortir du commandement intégré aujourd'hui. Puisqu'on est dans un conflit, il faut être solidaire de nos alliés. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Il sera le temps de tirer la leçon après. Bon, eh bien, si vous voulez, je constate que les États-Unis, finalement, ce conflit, ils vont plutôt en bénéficier, quoi. Affaiblissement de l'économie européenne.
Ah bah c'est tout gagnant pour les États-Unis. Ce conflit est tout gagnant, parce que d'abord ils sont sur un autre continent, donc ils n'ont pas la crainte de la population américaine comme on peut avoir ici en France, la crainte de la population française. Sur le plan économique, ils dépendent évidemment absolument pas. C'est pas parce que Netflix ne va plus vendre d'abonnements et Microsoft de licence Word, de toute façon elles étaient piratées à 70% en Russie, que ça va changer quelque chose.
Ils sont en train de nous vendre déjà leur gaz liquide. Vous avez
10 fois plus cher.
Non mais vous avez vu ça ?
Ils vous disent donc, n'achetez déjà, plus le gaz russe, on va vous en proposer gaz notre gaz, voilà, 10 fois plus cher.
Non mais vous rendez
les
compte
prix, donc, les prix d'achat sur bon, le stock, j'ai vu, sont multipliés par 10.
Renault est affaibli, Total est affaibli, les distributeurs français sont affaiblis, Danone est affaibli, Lactalis est affaibli. Bon, moi je constate quand même que les groupes américains sont moins touchés. Je constate aussi que l'Allemagne s'est bien gardée de couper le gaz, vous allez me dire. On n'avait peut-être pas d'autres solutions, mais enfin bon. Après tout, l'Allemagne, quand même, devrait assumer ses choix énergétiques, parce que quand ils ont arrêté le nucléaire pour aller dans le charbon, Madame Merkel s'est même pas concernée avec son allié français, hein, ce qui est quand même extrêmement révélateur d'une Europe qui est quand même qu'on nous
ignorante
présente comme
de ses collègues.
L'Europe unie, mais c'est pas si unique que ça. Les F-35, là, l'armée allemande qui la première chose qu'elle fait, alors je sais bien que c'est pour avoir accès au nucléaire américain, mais enfin, croyez pas qu'on aurait pu peut-être trouver une solution avec le nucléaire. Alors peut-être pas, je sais pas dans quelles conditions, mais enfin en tout cas c'est pas terrible, quoi. C'est Macron nous parle de d'armée européenne souveraine et puis les Allemands.
En fait, on va se retrouver avec des milliers de gilets jaunes dans les carrefours quand l'essence va exploser, le prix du gaz va exploser. Moi, je veux bien, mais on va aller expliquer aux gens l'hiver prochain qu'il va falloir mettre des pulls au vert. Des gens ont commencé là à nous dire qu'il faut baisser la température de 1 degré pour lutter contre Poutine.
Non, écoutez.
Non, mais je plaisante pas, hein, Robert. On nous l'a dit, il faut baisser la température de 1 degré pour lutter contre Vladimir Poutine. On va tous attraper froid, on va faire exploser encore l'assurance maladie, mais je ne vois pas en quoi ça va gêner Poutine d'avoir des Français qui sont enrhumés.
Poutine, s'il continue comme ça, il va récupérer nos groupes industriels en Russie et distribution. Il est en train de faire une belle opération. On disait que la Russie est un grand pays pour les minerais et l'énergie, mais un nain économique qui n'est pas plus gros que l'Espagne. Et là, s'il récupère l'ADA, les usines françaises des industriels européens, il va se doter d'un bel appareil industriel pour un euro, hein, pour même pas un euro, hein, pour même pas un rouble.
Donc, et si nous, on aura récupéré quelques yachts sur le port de Saint-Tropez.
Ouais, mais ça vous fait de belles gens.
Et qui sont invendables en plus, hein, voilà.
Oui, non, mais si vous voulez, je pense que là, il faut quand même arrêter l'émotionnel et essayer de réfléchir posément sur l'intérêt de la France et l'intérêt des Français. Parce que si l'État français a besoin de faire des économies, ce qui est probablement le cas avec l'endettement que nous avons, nous connaissons tous, et les Français connaissent tous, des doublons administratifs, des organismes qui servent à rien, des économies sur l'administration administrante, comme dit Valérie Pécresse, et là, je pense qu'elle a pas tort. Il y a quand même, en gros, tout le monde s'est serré la ceinture en France, notamment les petites boîtes et les petits artisans, les petits commerçants. depuis 15-20 ans, sauf en gros nos administrations. Donc il est temps qu'on remette à plat, la gestion de nos systèmes publics, parce que c'est quand même là ça nous plombe sacrément quand même. Et puis je parle pas aussi des gabegies sur le système social. Bon, il y a des candidats qui expliquent bien la fraude et puis arrêter de donner de l'argent à des gens qui ne travaillent pas. Il faut pousser l'argent vers la production, vers l'énergie, vers tous ceux qui entreprennent. Il faut pousser les gens à entreprendre. Il faut pousser, comme d'ailleurs Marine Le Pen. Vous avez vu que Marine Le Pen, elle veut exonérer d'IS, d'impôt sur les sociétés, tous les jeunes qui créent leur boîte en moins de 30 ans. Bon, c'est pas idiot, c'est assez intelligent. Bon, il y a aussi une autre mesure, c'est d'exonérer fiscalement tous les investissements des particuliers dans les projets d'entreprise. Ça pourrait. Vous avez un voisin qui vous ouvre une boulangerie, vous mettez 10 000 euros sur sa boulangerie, il vous ouvre son capital et vous déduisez de vos impôts. Mais ça, c'est vous savez, cette mesure simple, c'est ce qui existe aux États-Unis. Et puis le fameux fonds souverain, vous savez, dont on parle à chaque fois, mais ça commence à être, vous avez vu, c'est commence à être repris par un certain nombre de candidats. Avec l'épargne des Français, on crée un fonds souverain géant de 100 milliards d'euros qui reprend des parts dans le capital de nos grosses boîtes, commencé par EDF, qu'on a bien besoin, mais pourquoi pas aussi Alstom, toutes ces boîtes qui sont rachetées. Vous avez vu qu'Engenico s'est fait racheter, là, la boîte, ça n'a ému personne, hein. Moi, j'ai fait un papier dans Entreprendre, là, qui va sortir.
J'ai vu cette affaire.
Non, mais c'est important, ça, parce que c'est nos emplois de demain. Parce que le jour où vous allez apprendre qu'Engenico délocalise son usine ou son siège social, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Qui paye comment, mon cher Yannick? Celui qui paye détient la décision de savoir où il maintient ses emplois. Donc, c'est pour ça que la nationalité du capital de nos entreprises n'est pas neutre, et comme vous savez...
Et les Américains le savent mieux que quiconque, et c'est pour ça que parfois certaines ONG dont on connaît très bien le financement, on peut se retourner vers George Soros et bien d'autres, ce sont ces ONG actuellement qui font de l'agit-propre contre nos entreprises françaises.
Oui, mais
ce sont ces ONG financées. Donc, voilà.
Ouais. Oui, bien sûr, vous savez
qui
que Oxfam...
tire les fils de la marionnette.
Vous savez qu'Oxfam, par exemple, qui pointe les inégalités en France, alors qu'on est le pays probablement moins inégalitaire des pays capitalistes, est financé, reçoit des millions d'euros de la commission de Bruxelles, de Bruxelles. On finance des associations comme ça qui viennent donner des leçons politiques qui sont en réalité suivantes. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant une fois à la télévision, une philosophe dont le nom m'échappe. Il disait, vous savez, la France est un pays formidable parce que il y a un débat encore d'intellectuels qui viennent sur les plateaux expliquer ce qu'il faut faire pour relancer le pays. Seulement, moi je trouve ça génial. Et elle disait, le seul problème, c'est quand je regarde la pédigrée, 95% de ces intellectuels sont subventionnés ou vivent à travers l'État ou les universités d'État ou, si vous voulez, les administrations, etc. Donc, ils sont pas totalement, ils sont pas dans la meilleure position.
Pas totalement libres, voilà. Eh bien, on va terminer là-dessus, cher Robert.
C'est un vrai sujet.
Merci.
Je livre à la sagacité de vos nombreux auditeurs, voilà. Mon cher Yannick.
Entreprendre est en kiosque, donc, en ce moment, chaque mois.
Tout à fait.
Vous parlez des présidentielles et des entrepreneurs.
Avec le président Thompson. Le président Thompson, c'est face français, qui nous délivre un peu son programme d'entrepreneur vis-à-vis des politiques. Ça, c'est intéressant. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi sur la Russie... Les entreprises françaises en Russie, c'est un vrai sujet quand même dont on a parlé.
C'est dans Entreprendre, c'est dans tous les kiosques. Merci Robert Laffont d'avoir commenté l'actualité. À bientôt. Merci.
À bientôt.
Et ben,